Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio comme tous les samedis jusqu'à 10h avec en maître de cérémonie le fondateur de Radio Immo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui.
Eh bien écoutez, au programme on va parler de la politique du logement. On est dans le cœur du sujet. On verra comment s'articulent ces thématiques et on en parlera avec un maire de France. Il était temps.
Exactement. La parole à nos élus locaux et aux représentants de ces villes de France qui sont des préfectures ou des sous-préfectures. On va parler aussi des questions que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio.
On va parler d'ailleurs des défibrillateurs, justement, avec un de nos experts. On fera le tour également avec notre ami Grégoire qui est de retour sur Parlons Immo. Tour de France des prix de l'immobilier également. Et bien évidemment, on aura le journal et les actus très fraîches, très chaudes de Bérénice Deville.
Évidemment. Et d'ailleurs, elle fait son entrée sur le studio Sud Radio avec un tapis rouge. Bérénice Deville, Florio, les infos de la semaine à retenir, c'est avec vous et Sylvain Lévy-Valency.
Merci, bonjour Bérénice.
Bonjour à tous.
Comment ça? Alors les infos à retenir cette semaine, on va commencer notamment avec la proposition, et on est dans le cœur de l'actualité du Rassemblement National, concernant la rénovation énergétique.
Et oui, alors c'est vrai que je tiens juste à souligner que au moins pour ces élections législatives, le logement fait partie des programmes, parce que c'était pas le cas lors des précédentes élections législatives ni lors des élections présidentielles. Donc là, bon, au moins on va pas se plaindre, il est sur tous les programmes. Alors concernant le Rassemblement National, oui, Jordan Bardella veut lever les interdictions de location liées, vous savez, au DPE, au diagnostic de performance énergétique, donc qui est inscrit dans la loi climat et résilience de 2021. Selon lui, les interdictions, je cite ces mots, hein, qui sont liées au DPE, quand vous voulez mettre en location votre logement ou en vente, sont tellement compliquées que ça immobilise et ça paralyse tout le marché du logement. Donc le député européen souhaite maintenir le diagnostic de performance énergétique, hein, comme outil de mesure, afin de voir les travaux de rénovation que vous avez à effectuer dans votre logement, mais il veut abandonner l'interdiction de louer des logements mal notés.
Absolument, et d'ailleurs, il n'enlève pas le caractère opposable du DPE, simplement il veut lever le moratoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, juste pour celles et ceux qui nous écoutent, quel est le principe du DPE et le calendrier de la loi climat et résilience?
Alors, est associé à ce DPE un calendrier donc pour les propriétaires qui louent leur logement. Ils donnent une note, le DPE, à votre logement. Les notes vont de A à G en fonction de sa performance énergétique. A étant la meilleure note et G la moins bonne. Les logements F et G, on les appelle les passoires thermiques. Ce sont les plus énergivores. Et le but, vous l'avez compris, de ce calendrier, c'est de pousser les propriétaires à rénover. Donc le calendrier a été fixé aussi par la loi climat et résilience. Donc ce calendrier interdira la location à partir du 1er janvier prochain, donc 1er janvier 2025, les logements classés G, 1er janvier 2028 ceux classés F et 1er janvier 2034 ceux classés E.
Alors justement, pour les acteurs du secteur de la rénovation énergétique, est-ce que cette proposition serait dangereuse?
Oui, c'est ce qu'ils ont déclaré, ils se sont tout de suite empressés pour le dire. Bon, après, c'est aussi leur business, donc forcément, les professionnels du secteur rappellent que de nombreux emplois dépendent de ce dispositif. Selon eux, la rénovation énergétique représenterait 4 millions d'emplois directs ou indirects, surtout dans les territoires. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont spécialisés dans la rénovation énergétique. Après, ils reconnaissent que ce calendrier est difficilement tenable et risque d'accélérer la pénurie de logements, ça ils en ont conscience, hein, la pénurie de logements en location, mais selon les professionnels donc, du secteur, il faudrait le décaler et non pas le supprimer.
Bien sûr. Alors on va changer de parti, puisqu'on est en démocratie, même sur Sud Radio et tout.
Et même sur Radio Immo.
Et même sur Radio Immo, merci Jean-Marie. Alors le Premier ministre, Gabriel Attal, a lui aussi fait une proposition, il était temps, au bout de 4 gouvernements et de 5 ministres du logement, pour relancer le secteur.
Oui, alors Gabriel Attal veut supprimer les frais de notaire, vous savez, qu'on appelle accessoire, enfin ça c'est vulgarisé, on appelle ça les frais de notaire, en fait c'est les droits de mutation, donc il veut les exonérer sur tous les logements de moins de 250 000 euros pour les jeunes de classe moyenne et populaire, ce qu'on appelle les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Alors l'objectif évidemment c'est de redonner du pouvoir d'achat aux ménages français. Les frais de notaire, donc les droits de mutation, ils s'élèvent à environ 8,3% du prix d'achat, donc c'est pas négligeable hein, quand on achète. Ils sont payés donc par l'acheteur. Frais de notaire, c'est quoi en fait? C'est composé de la TVA, des droits de mutation à titre onéreux qui, eux, partent dans les départements et les communes. On pourra en parler avec notre invité. Et finalement, les notaires ne touchent qu'une faible part puisqu'ils touche que 0,82% du coût global d'achat. Donc en fait, les notaires, ce sont des collecteurs pour les collectivités, collecteurs de taxes.
Absolument, ce qu'on appelle tiers collecteurs en tant qu'officier ministériel par délégation. On va terminer toujours dans notre journal avec une info un peu sympa, avec une chanteuse qui vient de nous quitter, parce que c'est l'appel à la nostalgie, c'est Françoise Hardy.
Oui, tout à fait. Alors, Françoise Hardy, qui nous a quittés, c'était très bien organisé pour que son fils Thomas n'ait pas à payer de droits de succession exorbitants. Et je vais vous donner un petit tuyau. En fait, elle lui avait donné la nue propriété de ses biens, c'est-à-dire les murs de tous ses biens immobiliers appartenaient donc à son fils. Et elle en avait gardé l'usufruit. Donc, c'est-à-dire qu'elle pouvait utiliser ses biens. Bon, après, il faut bien s'entendre avec ses enfants, hein, si vous faites ça. Voilà. Et du coup, elle a pu en percevoir aussi les revenus jusqu'à sa mort. Et donc, les droits de donation ont été calculés sur la valeur de la nue propriété uniquement et non sur la pleine propriété. Et donc, c'est pour ça que ça a été évidemment abaissé dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose à faire. Et quand on commence à prendre l'âge, voilà, quand on a des enfants, il faut préparer sa succession.
C'est une très bonne solution de démembrer la propriété du vivant de ses enfants.
Exactement.
Et on règle par anticipation la fiscalité, ce qui est une très bonne chose.
Absolument. Mais écoutez, on fera ça. Mais on va parler maintenant de la suite de notre politique du logement, puisque je vous rappelle que nous sommes en période électorale. Quel gouvernement prendra le pouvoir dans quelques semaines? Et surtout, quelle sera sa politique de logement? On va en parler, tiens, avec notre invité, puisque c'est un représentant des élus locaux que nous recevons aujourd'hui.
Absolument. C'est Gilles Amérouz qui est avec nous, qui est le maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole, également vice-président du département de l'Indre. Il est président également de Ville-de-France. Et nous sommes ravis de le recevoir sur ce plateau.
Sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
Absolument. Bonjour Gilles Averrousse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous le savez. Parlons immo, Radio Immo et Sud Radio, nous aimons les maires de France. Vous êtes maire de Châteauroux, vous êtes président également de Châteauroux Métropole, vice-président du département de l'Indre et président de Ville-de-France. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau et de vous donner la parole. Vous êtes très engagé pour les communes françaises. Peut-être un petit mot sur la situation actuelle, peut-être du logement, mais plus largement, qu'on parle un peu plus de l'association que vous présidez, des villes de France. Je crois que vous êtes 200 villes adhérentes.
Ça, 200 villes adhérentes, des villes moyennes, des villes entre 10 000 et 100 000 habitants, plutôt des villes préfectures, sous-préfectures, qui ont souffert de désindustrialisation, d'étalement urbain, de réforme de la carte militaire également, avec des régiments de train fermés ici ou là sur le territoire national, et puis également de la grande régionalisation. On a vu une concentration de l'emploi administratif sur des préfectures de région, des grandes préfectures de région, souvent au détriment des préfectures de département et des sous-préfectures.
Alors souvent on a l'impression, vous savez, que les villes de France, on a les grandes métropoles qui aspirent finalement toute la richesse, l'industrie, l'emploi, les grands bassins, et on voit des migrations effectivement de villes moyennes qui se dépeuplent un peu. Est-ce qu'à Châteauroux vous vivez la même situation, en sachant que vous n'avez pas été épargné à Châteauroux? Vous aviez connu cette période où il y avait les régiments, l'armée dans les années 60, et ensuite il y a eu un départ brusque. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que des villes comme la vôtre sont les challengers, les villes outsiders de demain?
Oui, complètement. Alors la situation est différente entre les villes et les régions dans lesquelles elles se situent, celles qui sont sur le littoral, qui connaissent un dynamisme touristique, économique, évidemment, sont sur une tendance haussière, j'allais dire naturelle, et toutes les autres qui sont sur le nord, l'est, le grand centre de la France, ont connu une déprise qui a perduré, mais qui aujourd'hui constitue plutôt un atout, parce qu'on est des territoires sur lesquels on a du foncier de disponible, et vous savez qu'avec le zéro artificialisation net, le foncier sera vraiment une problématique de développement des métropoles, donc ça, c'est une chance pour les villes moyennes de reconquérir de l'emploi à travers la réindustrialisation du pays, et j'allais dire par capillarité, de pouvoir irriguer l'ensemble du territoire, y compris la ruralité. Et si aujourd'hui nos habitants ont besoin de retrouver confiance, ça passera sûrement par de la réindustrialisation, de la création d'emplois dans les villes moyennes et au plus près des lieux de vie de nos villages, c'est-à-dire jusqu'au plus petit de nos villages français.
Donc vous partagez cette idée du triptyque finalement emploi, logement, cadre de vie dans des villes moyennes?
Exactement. Et formation, j'ajouterais, parce que un des enjeux de nos territoires, c'est de garder nos jeunes sur le territoire. On sait que quand ils partent faire leurs études dans les grandes métropoles, souvent ils ne reviennent pas ou pas tout de suite, parce qu'ils vont trouver un emploi par là-bas, qu'ils vont former une famille dans cette grande métropole. Donc on a un enjeu de localiser de la formation, de l'enseignement supérieur sur nos villes moyennes, si on veut garder et accompagner nos entreprises à se développer.
Gilles Amirus, vous incarnez finalement cette génération d'élus locales, très aimée des Français. Vous êtes très engagé pour les communes françaises, puisque vous présidez Ville-de-France. La situation, vous la connaissez, elle est dramatique pour le logement. Alors, elle est assez disparate, hein, bien évidemment, c'est pas aussi tendu dans certaines régions. Quel constat vous faites, justement, sur ce désastre des politiques publiques menées, alors pas que par Emmanuel Macron et ses quatre gouvernements successifs, mais cette tendance à vous ôter, à vous rogner les ailes avec les leviers de croissance que vous aviez, les dotations qui ont fondu littéralement, et pourtant, des administrés qui ne cessent de vous demander, à vous les maires de France, du logement.
On a une double problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut très difficilement accéder à la propriété. Le coût de la construction a fortement augmenté, l'accès au prêt s'est fortement était rendu très très difficile. Hein. La hausse des taux d'intérêt fait qu'aujourd'hui il y a peu de foyers qui peuvent, notamment parmi les plus populaires, qui peuvent accéder à l'emprunt et donc acheter une maison ou un appartement. À côté de ça, on a tous ceux qui sont dans le parc social qui peuvent pas en sortir pour les mêmes raisons, parce qu'ils peuvent pas louer quelque chose de supérieur ou acheter une maison, ce qui fait que ceux qui devraient rentrer dans le parc social rentrent pas. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la politique nationale elle démontre ses limites et son inefficacité, et on souhaite pour les intercommunalités volontaires, qu'on puisse avoir les leviers en matière de logement. On pense que si on décentralisait le logement auprès des intercommunalités qui veulent s'en charger, on pourrait aller plus vite, plus rapidement et plus efficacement. Il faut des moyens, mais aujourd'hui, on pourrait, si le gouvernement le souhaitait, faire mieux que ce qu'on fait avec la politique nationale menée de manière uniforme sur tout le territoire.
Alors, vous le savez, en tant que maire, vous êtes les élus les plus proches des Français et ceux qui êtes les plus appréciés. Et pourtant, on a vraiment l'impression que vous êtes malmenés. Si on devait vous demander à vous, maire de la ville de Châteauroux et également maire de l'Association des villes de France, c'est quoi les premières préoccupations que vous rencontrez sur le terrain très concrètement, tous les jours?
Très concrètement, les gens ont peur en fait au quotidien. On est dans une France qui a vieilli. On a les seniors qui ont peur pour eux, pour leur avenir et pour leurs enfants. On a aussi les jeunes qui ont peur pour des questions de sécurité, des questions liées aussi à l'immigration. Il ne faut pas qu'il y ait de sujets tabous et il faut traiter toutes les problématiques. C'est plus l'emploi, la préoccupation, c'est un peu l'avenir de son foyer. Et ça, pour les villes moyennes que nous sommes, c'est plutôt quelque chose sur lequel on peut influer de manière positive. C'est-à-dire que, imaginez vivre dans une ville moyenne où les choses sont plus accessibles, où le transport urbain sur nos agglomérations est plutôt bien organisé. C'est des choix de vie qui peuvent séduire. Voilà. Donc on a cette opportunité aujourd'hui de pouvoir capter des populations qui viennent de plus grands ensembles, où les choses sont peut-être plus difficiles, où la sécurité est plus prégnante. En contrepartie, il faut que le gouvernement nous donne les moyens et qu'on sorte du tropisme toute métropole, j'allais dire tout aux métropoles. On a connu des grandes annonces pour les grands ensembles urbains et peu pour les villes moyennes. Même encore quand le président annonce la création de RER métropolitains, c'est pas pour les villes moyennes. Voilà.
Vous avez cette impression d'être finalement un peu délaissé, d'être un peu la variable d'ajustement du pouvoir un peu central qui se jacobinise?
Oui, on a ce sentiment de pas être dans les radars. Alors qu'on se bat sur le terrain pour contribuer. On considère qu'on est tous dans le même bateau, hein, dans le bateau France, donc on a tous intérêt à que l'ensemble des territoires se développe et de recréer de l'emploi au plus près des lieux de vie. Aujourd'hui, on peine à se faire entendre. La ruralité aussi, même si le gouvernement a donné des signes forts envers la ruralité, on a l'impression qu'entre la ruralité, les grandes métropoles, les villes, peut-être hormis le dispositif Action Cœur de Ville, et encore on pourra en parler, sont plutôt les oubliés, alors qu'elles devraient être la colonne vertébrale de la reconstruction du pays.
Alors justement, vous me permettez de faire cette transition, effectivement. Premier gouvernement avec Édouard Philippe, Jacques Mézard, président ministre de la cohésion des territoires, sort un projet qui s'appelait le projet Action Cœur de Ville. C'est Cœur de Ville qui ont perdu énormément d'attractivité. Je vais vous demander quelle est votre analyse sur cette question. Et surtout, comment, parce qu'il faut trouver des solutions, comment on peut lutter contre ce phénomène. Et la problématique de ces cœurs de ville, justement, c'est la gestion et la régénération de l'habitat ancien.
Action Cœur de Ville, un programme assez formidable quand on regarde les résultats obtenus dans un laps de temps très court. première génération 2018-2022, un cadre national mais une force, c'est-à-dire on confie les clés un peu du programme au maire en disant c'est au maire de faire des propositions et l'État n'a pas le droit d'ingérence, il accompagne les propositions faites localement. Et ça marche. Là on est dans la deuxième génération, 2023-2026, où on a rajouté le traitement des entrées de ville et puis les quartiers-gares. Avec une problématique sur le logement et effectivement cet enjeu de ramener de la population au centre-ville. Pourquoi ? Parce que le chiffre d'affaires d'un commerce, d'un commerçant de centre-ville, à 40% c'est fait par les habitants qui résident dans le centre-ville. Donc si vous n'avez pas d'habitants dans le centre-ville, forcément la viabilité du commerce, elle est plus fragile. Aujourd'hui, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut aller plus loin parce que depuis décembre dernier, jusqu'à Noël, les choses allaient plutôt bien, la période des fêtes s'est bien passée, mais depuis 6 mois, il y a vraiment une chute de la consommation très forte et il y a besoin d'aider nos commerçants, notamment dans la modernisation de leurs cellules commerciales, dans la modernisation de leurs vitrines, de leur système de chauffage. Voilà. Il faut vraiment venir en aide à nos commerçants et le plus rapidement possible.
Alors, avec Ville-de-France, justement, vous avez fait des propositions en mars dernier à Guillaume Casbarian, qui venait prendre ses fonctions, pour donner aux élus locaux les moyens d'agir concrètement en faveur du logement et bien sûr de l'habitat. Ce projet, d'ailleurs, le projet de loi Casbarian, devait démarrer le 17 juin, vous savez, au Sénat, et passer à l'Assemblée nationale. Il y a juste un problème, c'est que l'Assemblée nationale a été dissoute et tout est en stand-by. C'est quoi votre position sur ce sujet? Et je voudrais compléter la question. Est-ce que vous y croyez, vous, à la transformation des logements justement en bureaux, qui avait d'ailleurs aussi attiré votre attention. Et vous le savez, puisque la presse s'en est emparée, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, veut abroger la loi Casbarian. Et le ministre du Logement, d'ailleurs, à cet égard, avait déclaré que c'était réautorisé le squat. Votre avis sur ces questions?
Alors, notre position, elle est claire. Dès la nouvelle Assemblée installée le 18 juillet, il faudra s'atteler au logement parce que les politiques de logement sont toujours des politiques longues à mettre en œuvre. Donc, il faut le démarrer le plus rapidement possible. La question des délais est une question primordiale. Nous, on dit qu'il faut accélérer les procédures. C'est-à-dire, il ne faut plus parler de procédures qui s'enchaînent, mais il faut parler de date de livraison. Il faut que sur une opération immobilière, on s'engage sur une date de livraison, comme on a fait pour les Jeux Olympiques. Hein. La date des Jeux Olympiques, elle était impérative, le village olympique, fallait le livrer avant. Eh bien, pour les opérations immobilières, opération par opération, à partir, on va pas dire maison par maison, mais immeuble par immeuble, il faut contractualiser entre l'État et les collectivités pour s'engager sur un timing d'instruction. Il faut réduire les délais de recours à un mois sur les actes administratifs, rendre obligatoire aussi une médiation entre celui qui contestera une opération et le promoteur aussi dans un délai d'un mois. Voilà, il faut gagner du temps parce qu'on sait que le temps c'est de l'argent et que plus vous livrez rapidement,
c'est ce
moins,
que vous feriez,
moins ça coûte cher.
Si vous arrivez aux affaires,
c'est ce qu'on ferait. Moi j'irais plus loin. On nous a demandé aux élus de faire ce qu'on appelle des zones d'accélération des énergies renouvelables où on a dû parcelle par parcelle sur nos territoires déterminer là où on a implanté des parcs solaires, là où on allait implanter des méthaniseurs. Il faut faire la même chose sur le logement. Il faut nous demander quelles sont les parcelles sur lesquelles on peut s'engager à construire dans un délai rapide. Si on veut faire un choc d'offres, il faut passer par là. Il faut vraiment faire une politique la plus territorialisée possible. Et ça, on y est favorable. Sur votre question de la proposition du Front Populaire,
ben oui,
de remettre en cause la loi Casbarian, ce serait une grave erreur. Aujourd'hui, on a besoin de rassurer les propriétaires. On a besoin d'investisseurs. Plus vous allez mettre en danger ces investisseurs et ces propriétaires, moins vous aurez de construction de logements.
Et on rappelle que la loi Casbarian, c'est celle qu'on avait surnommée la loi anti-squat, et dont le Front Populaire veut manifestement l'abrogation en cas de victoire aux élections législatives.
Merci Gilles Averrousse, je rappelle que vous êtes le maire de Châteauroux. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons Immo.
Et président par ailleurs de Ville-de-France. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, vous avez tous un logement ou vous en avez besoin et vous avez posé beaucoup de questions cette semaine sur le répondeur de Sud Radio, on y répond dans un instant.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
On parle logement jusqu'à 10h comme chaque samedi sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency et avec vous aussi au 0826 300 300. Cette semaine, vous nous avez posé beaucoup de questions, Sylvain.
Oui, absolument, ça vous concerne. C'est une rubrique très importante, Jean-Marie. Vous posez vos questions et on vous répond très pratiquement en direct. Et Bérénice, cette semaine, on a eu un message sur le répondeur, on nous parle de défibrillateur.
Tout à fait, parce que vous le savez, bien l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, hein, c'est à l'origine de 18 000 morts par an en France, c'est 10% des décès, et donc on a des auditeurs qui étaient un peu inquiets par rapport à ça, parce que souvent ça arrive à domicile, et c'est Alexandre et Joséphine donc, qui habitent Poitiers dans un appartement au sein d'une copropriété qui ont 30 ans voilà, et qui s'intéressaient à ce sujet et qui s'intéressaient sur les défibrillateurs qu'on pouvait installer en copro, parce que c'est possible apparemment. Donc on a contacté un expert, Thibaut-Antoine Paulet. Bonjour, vous êtes président de Locacœur. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravi de vous recevoir. Alors, peut-être un petit mot sur Locacœur. Qu'est-ce que vous faites ?
Nous sommes une société qui existe depuis 2013 et qui est spécialisée dans apporter des solutions en cas d'urgence. On pense évidemment aux défibrillateurs, c'est le sujet aujourd'hui, mais on peut penser aux trousses de secours, au système de télésurveillance, de téléassistance. L'idée, c'est de vous aider quand quelque chose de grave arrive. Et avant que les secours n'interviennent.
Alors, c'est vrai que quand tout va bien, on n'y pense pas, mais ça peut arriver à tout le monde, il faut quand même le dire, à tout âge. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance quand même d'avoir un défibrillateur ?
Vous l'avez rappelé, c'est la première cause de mortalité en France. Et le gros problème qu'on a avec l'arrêt cardiaque, c'est que la plupart du temps, il apparaît sans signe avant-coureur. Donc, on ne peut pas prévenir. Mmh. On commence par perte de conscience. L'espérance de vie se mesure en minutes. Et évidemment, on ne peut pas demander à des pompiers du SAMU de pouvoir intervenir en tout point en quelques minutes, donc à domicile ou dans une entreprise. Donc, la présence d'un défibrillateur à proximité est absolument essentielle.
Mmh. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est devenu, par exemple, obligatoire dans les stades de foot, dans certains établissements publics.
Les ERP, les établissements qui reçoivent du public.
Exactement.
Hein, n'est-ce pas, Thibaut, ont l'obligation d'avoir un défibrillateur.
C'est exact. Depuis 2019, la plupart des ERP ont cette obligation. On a d'ailleurs vu un taux d'équipement France qui est monté de manière très 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 importante. On est passé d'environ 150 000 défibrillateurs déployés en France, c'est une estimation, à environ 500 000 aujourd'hui en à peu près 3 ans. Néanmoins, je profite de cette opportunité pour mettre en avant le fait que, à aujourd'hui, malgré ce triplement du parc, on n'a pas d'amélioration du taux de survie à l'arrêt cardiaque en France. On est toujours dans autour des 8%.
Pourquoi ?
Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il y a un manque de culture, peut-être. Vous voyez, oui. C'est très bien que ces auditeurs posent ces questions. On se rend compte dans les centaines, voire les milliers de formations qu'on fait tous les ans, qu'il y a vraiment peu de connaissances. Comment identifier un arrêt cardiaque ? Est-ce que les gens le savent, par exemple ?
Oui. Bah non, pas forcément.
Bah justement,
comment on fait ? Alors justement, on sait que vous l'avez dit, hein, c'est les premières minutes qui comptent. Il faut agir très vite quand ça se produit. Comment faire en fait ? Comment se former à l'utilisation et comment apprendre ?
Alors, il y a un très large panel de formations. Dans le milieu professionnel, on peut penser au SST, au PSC1. Il y a des structures qui proposent de nombreuses formations. Je pense à la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, mais il y en a d'autres. Beaucoup de mairies sont très actives de ce point de vue-là. Donc, il faut un petit peu s'intéresser au sujet. Maintenant, pour reconnaître un arrêt cardiaque, hein, c'est votre question, il y a deux critères qu'il faut absolument identifier qui sont en fait, en réalité, très simples. Une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas normalement, il faut partir du principe qu'il y a une suspicion d'arrêt cardiaque et on va, dans tous les cas, appliquer le protocole qui est alerté, massé et défébrilé surtout.
Alors là, pour revenir à la question de nos auditeurs qui souhaitent installer un défibrillateur dans leur copropriété, c'est vrai que c'est très malin comme suggestion. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment s'y prendre ?
Et où l'installer ?
Oui.
Où l'installer, c'est le challenge parce que toute la problématique est l'accessibilité du défibrillateur. Donc imaginez une copropriété de plusieurs étages. Il ne faut pas imaginer qu'on va passer du 10e étage au rez-de-chaussée puis remonter au 10e étage, le tout en quelques minutes pour aller sauver son conjoint. Donc le positionnement du défibrillateur est essentiel. Il faut réfléchir en temps de déplacement. On essaye de défibriller dans les premières minutes. Et l'équipement est très simple. Il y a de nombreuses sociétés qui peuvent proposer ce genre de matériel. Faites très attention néanmoins. Il y a une hétérogénéité très importante des matériels. Choisissez le bon. Et surtout, faites entretenir ce matériel. Il y a des statistiques qui ont été publiées récemment par Arlod qui montrent qu'environ 60% des défibrillateurs qui ont été vérifiés récemment étaient en défaut de fonctionnement. Ah oui. Alors avoir un défibrillateur évidemment, mais il faut avoir un défibrillateur efficace, qui marche évidemment, et savoir l'utiliser. Donc on revient sur la formation.
Combien ça coûte d'installer un défibrillateur dans sa copro ?
On va être sur un budget d'un peu plus 1000 euros. Si vous voulez vraiment du matériel qui a un bon taux d'efficacité, on va monter à peu près à 1400, 1500 euros. Mais cela exclut l'entretien. Et selon votre ambition, est-ce que vous voulez un entretien annuel ou non, est-ce que vous voulez que les consommables soient inclus ou non, vous allez de prévoir un budget supplémentaire.
Et si on, et tout compris, pardon, combien ça coûte en fait l'entretien, pour donner une idée à nos auditeurs qui nous ont écrit, parce que
d'un entretien sur une location d'un matériel de qualité avec un entretien tout compris, on parle d'une cinquantaine d'euros par mois à peu près.
Donc en copro, c'est divisé, donc
C'est un coût, mais enfin, en tout cas, c'est le coût de la vie, parce que quelqu'un qui est formé, parce qu'il faut aussi être formé, je suppose, également au premier secours.
Oui, il est vrai que le défibrillateur donne des instructions. Alors le niveau de détail des instructions dépend des modèles, mais il faut bien garder à l'esprit qu'on va utiliser ce matériel dans un moment d'intense stress. Imaginez, vous devez sauver votre conjoint, votre enfant peut-être, ou vos parents. C'est pas quelque chose d'anodin, et malheureusement on tombe toujours sur des situations particulières.
C'est difficile d'être lucide.
Si la personne a une hémorragie, si la personne est dans une flaque d'eau, si c'est la suite d'un choc électrique, comment réagir ? C'est pas facile. Donc la formation est essentielle. Et je dirais même si la copropriété peut s'équiper de téléassistance, ça se fait. Les défibrillateurs avec de la téléassistance qui vous permet de vous guider, d'être avec vous, c'est encore mieux.
Merci beaucoup Thibault-Antoine Pellet, donc président de Locacœur.
Et ça valait le coup en tout cas de le signaler, ne serait-ce que pour faire un petit peu de prévention auprès de tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Allez, tout de suite, le Tour de France.
Sud Radio. Parlons Immo.
Le Tour de France des biens à acheter, on commence par un bien qui est proposé en viager par notre partenaire Viage Immo, Sylvain.
Absolument, vous nous emmenez où cette fois-ci, j'allais dire Bérénice.
Grégoire, je vais vous aider. Grégoire, il s'appelle Grégoire.
Je me suis dit, c'est le système pilote, c'est pas exactement le même.
Je suis passé en Bérénice, c'est bon. Sylvain, je vous emmène pour ce premier bien avec notre partenaire Viage Immo entre sel et pierre, dans une cité médiévale qui peut exercer une influence jusque
Guérande.
Dans votre assiette. Exactement, on va à Guérande, presqu'île plus que connue dont les marais salants firent sa richesse. Avec notre partenaire Viage Immo, nous vous proposons cette semaine une maison de 95 mètres carrés construite en 1976 sur un terrain clôturé de 883 mètres carrés. Une maison composée d'une cuisine aménagée, d'un salon spacieux, de trois chambres et d'une salle de bain rénové. Cerise sur le gâteau, vous aurez une véranda de 19 mètres carrés pour profiter des jours ensoleillés qui ne devraient pas tarder d'après la dernière annexe numéro 4973 aux prévisions météorologiques catastrophiques estivales en France. Oui, j'en ai marre de la pluie. Sachez également qu'un garage fermé se trouve contre la maison. Il fait 24 mètres carrés.
Alors justement, les conditions du viager, il faut savoir que c'est même très particulier, mais très pratique également.
Oui, nous avons ici un bien qui est proposé, mon cher Sylvain, en viager occupé, assorti d'un droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 73 ans et d'une femme de 78 ans. Pour acquérir ce bien, il vous faudra débourser un bouquet de 108 000 euros et une rente viagère mensuelle de 559 euros. Une belle opportunité pour laquelle vous pouvez en savoir plus en contactant soit l'agence Viage Immo de La Baule, soit vous pouvez vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos sur www.viageimmo.fr. Et si vous contactez l'agence directement, vous pouvez même avoir plus de photos.
En tout cas, un bien à retrouver sur le site de notre partenaire viageimmo.com.
Sud Radio. Parlons Immo.
On continue le Tour de France tout de suite.
Absolument. Les Tours de France de l'immobilier, on repère les bonnes adresses et les bons plans. Et cette fois-ci, Grégoire, la rédaction a eu des coups de cœur direction les Landes.
Oui, j'ai besoin, donc vous l'aurez compris, de soleil et de chaleur. Je vous emmène dans le plus beau département de France. J'ai nommé donc les Landes. Ça fait un petit moment que nous n'étions pas allés au paradis, toute objectivité, évidemment.
Très objectif.
Voilà. Donc direction la ville de Dax, une petite station thermale très fréquentée, qui est connue également pour son club de rugby. Nous sommes sur la radio du rugby. Le club de Dax a vécu des belles heures. Avec la rédaction, on vous a dégoté un T3 de 83,79 mètres carrés, très bien situé dans un quartier prisé de la ville. Notre appartement, il est situé au deuxième étage d'un immeuble de caractère. Il bénéficie d'une belle hauteur sous plafond et donc un espace de vie aéré et lumineux. Notre appartement, il se compose d'une grande entrée, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un bel espace de vie. Il est situé à proximité des commodités et de nombreux parkings se trouvent également dans les environs pour stationner votre véhicule. Bref, une belle opportunité qui vous est proposée au tarif de 130 000 euros par l'agence Century 21.
Et qu'on peut financer avec 20% d'apport.
20% d'apport, donc 26 000 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous avez des mensualités de remboursement à 556,36 euros, mon cher Sylvain.
Alors, on prend le train, l'avion, la voiture plutôt. Le train, c'est plus écologique. écologique, direction l'Auvergne-Rhône-Alpes dans une station thermale bien connue.
On est resté dans le thème thématique thermale et pour ce troisième bien, on remonte au nord-est, direction la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez dit, et une ville connue pour plein de choses comme son eau, les carreaux de nappe ou encore la naissance de Claude Vorillon, dit Raël, en 1946. Et oui, nous sommes à Vichy. Voilà, j'ai découvert tout ça dans des préparations.
Eh bien, bravo.
C'est un appartement T3, là aussi, de 85,26 mètres carrés que je vous ai trouvé, situé au premier étage avec ascenseur, d'une résidence calme et sécurisée. Notre appartement, il se situe non loin de l'hôtel de ville de Vichy, pas très loin du centre-ville. Notre appartement, il se compose d'une entrée avec placard, d'un salon séjour avec balcon, d'une cuisine équipée et aménagée, de deux grandes chambres, d'une salle de bain avec douche et baignoire et d'une buanderie. En plus, vous aurez une place de parking privative et une cave. Il est proposé au tarif de 224 000 euros sur le site Bien Ici.
Et à 4% sur 25 ans, ça va coûter ?
20% d'apport, 44 800 euros. Emprunt sur 25 ans, 4%. Mensualité de remboursement à 946 euros.
Merci Grégoire.
Et bon, écoutez, maintenant on peut faire son choix. En tout cas, merci à tous pour ce rendez-vous. Merci Sylvain Lévy-Valency.
Merci Jean-Marie. On retrouve l'émission le mardi prochain à midi sur Radio Immo, comme chaque semaine. Et on se retrouve samedi prochain.
On se retrouve samedi prochain avec plaisir sur Sud Radio. À très bientôt.
Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.